Allez, c'est parti pour le pressing avec Amblin Roche et Martin Lange. On regarde d'abord les unes de vos journaux. Et d'abord les détails, enfin les conditions et le calendrier du déconfinement dévoilé dans Le Parisien aujourd'hui en France par Jean Castex lui-même, interview exclusive. Vous trouverez un tableau, un calendrier très détaillé avec les jauges, activité par activité, les dates 19 mai, 9 juin, 30 juin. Et l'optimisme du Premier ministre qui dit « nous sommes enfin en train de sortir de cette crise sanitaire ». La vaccination dans la Voie du Nord, vous êtes adulte, tentez votre chance dès demain, annonce le journal. C'est l'ouverture des rendez-vous sans condition d'âge lorsqu'on prend rendez-vous du jour pour le lendemain. Autre titre ce matin, on en parlait tout à l'heure, la mort de l'ogre, le visage de Michel Fourniret à la une de la Dépêche du Midi. Sa mort réduite à néant les espoirs de plusieurs familles de disparus, écrit le journal. Il emporte ses secrets dans la tombe, ajoute le courrier Picard, l'Est républicain ou encore le républicain Lorrain. Et puis à l'étranger, Jérusalem qui s'embrase à nouveau, c'est la une du Télégramme, mais aussi de La Croix, l'affrontement sans fin et de Libération avec ce titre « Jérusalem, retour des flammes ». Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Amblin, on commence par vous. Et qu'est-ce que vous avez lu? C'est le déconfinement.
Et oui, avec ce focus sur les grands centres commerciaux, puisqu'ils sont sur le pont, prêts pour le 19 mai, les centres commerciaux. C'est le journal Les Échos qui fait un focus sur ces grands complexes. Alors, pour rappel, les ensembles de plus de 20 000 mètres carrés, elles sont fermées depuis le 28 janvier. Et donc, ils n'ont fonctionné que la moitié du temps depuis un an et demi. Les surfaces de plus de 10 000 mètres carrés sont-elles fermées depuis le 6 mars? Ça concerne deux tiers des 800 centres commerciaux de France. Alors, réouverture, cela veut dire protocole sanitaire strict, hein, un client masqué pour 10 mètres carrés dans les allées, un pour 8 dans les boutiques. Les espaces devront être correctement ventilés. Des capteurs de CO2 sont installés comme garde-fous, pourront se déclencher si nécessaire. Une ventilation pour renouveler l'air. Hein. Mm-hmm. Avez-les-y deux dans les Yvelines ou au Forum des Halles à Paris. Par exemple, on ne pourra ni boire ni manger à l'intérieur, mais des espaces à l'extérieur vont être aménagés. Et puis, on va compter à nouveau les clients à l'entrée.
Ah oui, c'est ça, il va falloir compter. Exactement. À l'entrée de chaque magasin et à l'entrée du centre commercial.
En cas d'affluence importante, à la fin du mois, par exemple, lors du week-end de la fête des mères, le principe sera une entrée pour une sortie, même aux entrées des centres commerciaux, en plus des boutiques. Pour essayer de rattraper les ventes perdues, sachez que les professionnels souhaitent ouvrir aussi le dimanche, et ce jusqu'au 20 juillet, jusqu'à la fin des soldes, ce à quoi le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est montré plutôt favorable. Et donc, en attendant le lever du rideau devant les vitrines, eh bien, les commerçants, eux, sont déjà à pied d'œuvre dans leurs boutiques, car depuis le mois de mars, et a fortiori depuis janvier, eh bien, on est passé de la mode hiver à la mode été. Ouais. Donc les rayons sont en cours d'installation. Ouais. Exactement. Comment les centres commerciaux préparent leur réouverture, c'est dans Les Échos.
Mais il faudra voir si les clients reviennent aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas attendu. Bien sûr, beaucoup de gens se fournissent maintenant sur Internet. Et c'est toute l'inquiétude évidemment des commerçants. Mmh. Autre sujet, on vous avait parlé de ce mouvement né sur les réseaux sociaux pour dénoncer, vous savez, l'enlaidissement de Paris. Martin, vous vous en souvenez, vous aviez fait votre chronique réseaux sociaux sur ce mot-clé « saccage Paris ». Et bien, dans le siège de ce mouvement, des Parisiens sont en train de se cotiser pour racheter le mobilier de la ville. On l'apprend dans le Figaro ce matin. L'objet de leur désir est en photo. C'est un banc public. Vous savez, le double banc traditionnel parisien, en bois et en fonte, qu'on doit à l'architecte Gabriel Daviau, après commande du baron Haussmann. Ce banc va être vendu aux enchères chez Drouot le 18 mai, la semaine prochaine. Eh bien, des Parisiens, à l'initiative de Quentin, qui est un trentenaire, ont décidé de lancer une cagnotte en ligne pour pouvoir l'acheter, ce banc. Avec cet appel « Parisien, Parisienne, vous ne supportez plus de voir le mobilier historique disparaître et être remplacé par du mobilier indigne ». Eh bien, ils sont déjà 140 à avoir répondu. Et le commissaire priseur de la vente les soutient, lui-même choqué de voir qu'on remplace ces bancs Second Empire par des troncs d'arbres dans certains endroits de Paris. Alors il promet de ne pas prendre d'honoraires sur cette vente. Et c'est vrai que ces bancs, de même que les grilles d'arbres, les lampadaires, aucune capitale n'en a dessiné d'aussi emblématiques. Ils sont reconnaissables entre tous. Ce banc, il est estimé autour de 400 euros. C'est plutôt abordable, mais il pourrait partir beaucoup plus cher parce qu'il est devenu rare. Alors s'ils parviennent à le racheter, qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Dans la rue.
Eh bien, c'est tout simple. Le plus probable, disent-ils, c'est qu'on vienne l'offrir à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour qu'elle lui trouve un beau jardin ou le réinstaller. Voilà, histoire de marquer le coup. Et s'ils n'y arrivent pas, bien, ils rembourseront tous les contributeurs de la cagnotte. Qu'en dit la mairie de Paris? Pour l'instant, Rien du tout. Silence radio à la mairie de Paris sur cette initiative.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques.
On est d'accord que Brassens parlait des bancs publics, pas des rondins de bois.
Ça n'a rien à voir. S'ils sont à l'initiative de ce changement de mobilier, du coup, ils se taisent.
Martin, c'est à vous, on termine avec vous.
Et moi aussi, j'ai décidé de vous faire écouter un peu de musique, Sébastien.
C'est pas de Brassens.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Non, ça, on dirait un générique de télévision.
Et si je vous fais écouter ça ?
Ah oui.
Voilà.
Là, vous savez nous parler.
Exactement. Daft Punk. Exactement. Alors, ce que vous avez entendu d'abord, c'est le morceau utilisé et remixé par Daft Punk pour son énorme succès, donc One More Time, sorti il y a 20 ans. Alors, pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Eh bien, parce que Eddie Jones, l'auteur du premier morceau, qui a lui aussi connu son heure de gloire à la fin des années 70, eh bien il se retrouve aujourd'hui à la rue sans un sou et il accuse le groupe français de ne jamais lui avoir versé de droits d'auteur. C'est le Los Angeles Times qui nous raconte son histoire, hein, reprise en France par le site Combini.
Ouais, donc star du disco, mais qui est devenu SDF à Los Angeles, comment c'est possible ?
Alors une attaque cérébrale qui l'empêche de travailler, puis les accidents de la vie, mauvaises rencontres, mauvais placements. Parmi eux, hein, le choix de confier les droits de son disque à un intermédiaire, un spécialiste. C'est lui qui en 1995 a vendu à Daft Punk un énorme catalogue d'albums, parmi lesquels celui d'Eddie Jones, et c'est à cet intermédiaire que le groupe verse des droits deux fois par an, sans que le pauvre Eddie Jones n'ait rien à en dire. Une histoire tragique, hein, mais qui permet de mettre en lumière le comportement de ces intermédiaires, parfois peu scrupuleux. Elle a également relancé le débat outre-Atlantique, comment mieux protéger et rétribuer ceux qui participent de près ou de loin à un morceau, hein. Certains proposent de mettre en place une taxe sur laquelle aucun agent ne pourrait mettre la main, mais ça ne règle pas le problème des vieux morceaux, comme le fameux Funky Dreamer de James Brown, créé par son batteur et réutilisé depuis par près de 1000 artistes.
Là, c'est pareil, le batteur n'est pas rémunéré pour ça ?
Pas du tout, pas du tout. Et c'est un des morceaux qui a été le plus réutilisé dans l'histoire de la musique. Hein. Je peux vous citer de Dr. Dre. Enfin voilà, il y en a des dizaines. La polémique autour d'un sample de Daft Punk, hein, c'est à lire sur le site de Combini.
Les injustices des droits d'auteur. Vous aviez fait le rapprochement, Omblin, sur le Daft Punk tout à l'heure ?
Non, pas du tout. Je l'avais pas reconnu.
Ça aurait pu faire une partition.
Exactement.
Merci à tous les deux. Il est 5h23.